Le journal est présenté par Anne Fauquemberg. Bonsoir Anne.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. La société civile qui manifestera demain contre le CETA en Europe applaudit. Ce matin, le Parlement de Wallonie s'est opposé à la ratification de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Quentin Dickinson a assisté au débat, il racontera au début de ce journal. François Hollande tente de se rattraper après ses confidences fleuves à des journalistes du Monde, mais ses propos sur la justice vont laisser des traces. Les magistrats saluent néanmoins un début d'explication après la lettre que leur a adressée le chef de l'État. Nous ferons le point avec Armelle Balogog. Nous irons aussi à Lille où s'est tenue cet après-midi une audience sur le démantèlement de la jungle de Calais. Le tribunal administratif a examiné le référé liberté déposé par 11 associations d'aide aux réfugiés. Elles demandent de reporter l'évacuation des milliers de migrants. Enfin, à la veille de la cérémonie nationale d'hommage aux victimes des attentats de Nice, nous nous intéresserons aux séquelles psychologiques des habitants. C'est un dossier suivi par Aurélie Kiefer et puis l'enquête du service investigation de Radio France. Les super profits des sociétés autoroutières scrutés à la loupe de Maxime Fayol cette semaine. Alors qu'une nouvelle manifestation de la société civile est prévue demain dans plusieurs villes d'Europe pour dire non à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, les institutions semblent prendre le relais. Ce matin, le Parlement de la région belge de Wallonie a mis son veto à la signature du CETA par la Belgique. Le texte doit être soumis mardi aux 28 pays membres et s'ils donnent leur accord, il pourrait être entériné avant la fin du mois, à moins que la procédure de Wallonie ne freine le processus. La motion adoptée par les députés à Namur, demande à l'exécutif régional de ne pas déléguer ses pouvoirs au gouvernement belge. Le récit de notre correspondant Quentin Dickinson.
Entre les tenants du traité euro-canadien et les opposants à celui-ci, c'est d'emblée un dialogue de sourds. Les premiers parlent entreprise, exportation, investissement, au besoin en forçant l'ironie, comme le député indépendant André-Pierre Puget.
Rien de bon dans cet accord. Je n'ai entendu que des critiques, des drames annoncés. Bref. L'Europe extralibérale imposant son modèle dictatorial à son peuple soumis à une puissance étrangère. Chers collègues, reprenons nos esprits, s'il vous plaît.
Les anti-CETA, eux, ont parfois du mal à s'extraire du registre de la salutaire méfiance vis-à-vis du capital. Frédéric Gillot, du Parti du Travail, veut bien d'un traité...
Des traités équitables, des traités qui remettent l'homme au centre, des traités qui remettent l'environnement, la société au centre, des traités qui ne visent pas uniquement le profit de multinationales.
En réponse aux élus, le ministre-président de la Wallonie se situe lui aussi au niveau des grands principes. Paul Magnette.
La discussion que nous avons est dans le fond une discussion de principe, est une discussion éminemment politique et même à certains égards une discussion philosophique sur ce que c'est le commerce et sur la manière dont il faut le mener.
Mais l'issue du vote ne fait aucun doute. Après 3 défaillances successives du système de vote électronique, le président du Parlement est enfin en mesure de l'annoncer.
La motion recueille 46 oui, 16 non et une abstention. Elle est donc adoptée par notre Parlement de Wallonie.
Le compte-rendu de notre correspondant Quentin Dickinson. En France, les magistrats saluent un début d'explication après la lettre de regret envoyée par le président Hollande aux représentants de la justice. Le chef de l'État a été obligé de réagir après la bronca qu'il a suscitée en taxant, je cite, de lâcheté l'institution judiciaire, cela dans des propos rapportés dans un livre de journaliste qui vient d'être publié. Bonsoir Armelle Balogog.
Bonsoir.
Le ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas a commencé à désamorcer cette crise ce matin en recevant les plus hauts magistrats. Il y a désormais 7 lettres du chef de l'État, mais cette affaire, c'est sûr, va laisser des cicatrices.
Et oui, Anne, une lettre ne suffira pas à effacer le sentiment d'humiliation des magistrats et ce, malgré l'expression des regrets du président quant à leur réaction, malgré aussi l'assurance de sa confiance et de son respect envers la magistrature. Thomas Pison, le président de la conférence des procureurs des tribunaux de grande instance, s'en remet autant pour pardonner François Hollande.
Nous, on considère que c'est une première démarche, un début d'explication pour nous dire que, bien sûr, ils considèrent que notre action est tout à fait digne de le plus grand respect. Je crois qu'il faudra, au fil du temps, beaucoup de pédagogie pour que les choses se cicatrisent.
De la pédagogie aussi pour calmer des magistrats très énervés. Certains envisageaient même d'organiser des manifestations avant de lire cette fameuse lettre. Des regrets, pas tout à fait des excuses, comme elle les demandait hier sur notre antenne. Alors Céline Parizeau, la secrétaire générale de l'Union syndicale des magistrats, prévient « le président va devoir se racheter ».
Maintenant, il faut que ces regrets soient appuyés par des actes concrets qui démontreront dans les faits le respect dont ils se targuent pour l'institution judiciaire. Notamment, les projets de loi qui sont en cours de discussion, c'est le projet sur le budget. Donc il faut qu'un effort soit fait pour que le budget soit effectivement rehaussé. Il y avait également un projet de loi pluriannuelle pour la justice. Ce sont des choses qui peuvent permettre de renforcer l'autorité judiciaire.
Côté politique, les réactions sont bien plus virulentes. Celle de l'ancien magistrat, aujourd'hui député Les Républicains, Georges Fenech, par exemple. Il trouve ses regrets pitoyables. Pour lui, le président avoue sa culpabilité. Et en effet, à aucun moment, il ne dément avoir tenu les propos polémiques. Il ne donne pas non plus d'éléments de contexte pour mieux les comprendre. Mais il précise qu'ils sont sans rapport avec la réalité de sa pensée.
Merci Armel Balogok pour vos explications. Reste maintenant à savoir si ces confidences malheureuses aux journalistes du Monde auront des conséquences dans la stratégie vers une nouvelle candidature pour la présidentielle pour François Hollande. Le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, s'est dit stupéfait et s'interroge sur la volonté du chef de l'État d'être candidat. Quant à Manuel Valls, qui se pose en recours au cas où le président choisirait de ne pas y aller, il a envoyé des messages depuis le Canada où il se trouve cet après-midi, messages qui peuvent être lus comme des signaux. Il faut que nos comportements soient dignes, soient à la hauteur de ce que les Français attendent, a-t-il déclaré. Dans les Hauts-de-France, le démantèlement de la jungle de Calais se profile en dépit des protestations des associations de défense des réfugiés. Le collectif baptisé Coalition internationale des sans-papiers et des migrants qui réunit 11 associations a été interdit de manifestation cet après-midi dans le centre de Calais. Dans le même temps, le référé Liberté déposé à l'initiative de ces mêmes militants a été examiné cet après-midi devant le tribunal administratif de Lille. L'action en justice vise la préfète du Pas-de-Calais. Les militants estiment qu'en l'absence de solution pérenne pour les exilés, il faut retarder l'évacuation. Camille Marigot, vous avez assisté à l'audience cet après-midi.
La grande crainte des bénévoles, c'est que les migrants qui refusent de rester en France disparaissent dans la nature au moment du démantèlement et de leur conduite dans les centres d'accueil et d'orientation, les CAO. Un diagnostic de leur projet est donc nécessaire et d'ailleurs déjà entamé par ces organisations qui réclament plus de temps pour le mener à bout. François Guénoc, vice-président de l'Auberge des migrants.
On met en place un téléphone rouge pour au cas où ils seraient en difficulté. On est en train de commencer ce travail de recensement sur les mineurs avec une localisation précise sur le camp. On va mettre en place des équipes pour au cas où le gouvernement évacuerait, ces mineurs soient mis à l'abri, et si possible en lien avec la police, c'est-à-dire qu'ils soient mis dans des endroits où ils soient véritablement sous protection. Donc de toute façon, nous on travaille.
La préfecture affirme pourtant que les migrants ont bien été recensés et leur situation étudiée, mais pour Julie Bonnier, l'avocate des associations, aucun document ne le prouve à l'heure actuelle.
Ce qui est toujours difficile aussi, c'est que la préfecture vient à l'audience en demandant qu'on fasse confiance et qu'on lui donne acte, et en ne produisant pas de justificatif à ce qu'elle avance. Donc c'est compliqué d'avoir 200 pièces, d'avoir des attestations, des témoignages, des justificatifs de tout ce qu'on avance et de s'opposer aux représentants de l'État qui produit quasiment aucun document et d'ailleurs aucun calendrier, aucune information concrète réelle.
Un manque de transparence qui laisse place aux rumeurs et pousse certains habitants du camp à précipiter leurs tentatives pour rejoindre le Royaume-Uni, notamment les mineurs isolés. Il serait près de 1300 sur le camp, dont environ 500 affirment avoir de la famille de l'autre côté de la Manche.
Les précisions de Camille Marigot de France Bleu Nord. Dans un communiqué, la préfecture du Pas-de-Calais récuse les accusations d'atteinte aux libertés des personnes vivant dans la jungle. Elle affirme que tous les cas individuels seront examinés et pris en charge dans les centres d'accueil et d'orientation prévus par l'État. La décision du tribunal administratif est attendue en début de semaine prochaine. Au sein de la chaîne de télévision iTélé, la crise est ouverte autour de l'arrivée de Jean-Marc Morandini, l'animateur obligé de se retirer des plateaux de Énergie 12 et des matinales d'Europe 1 est mis en examen pour corruption de mineurs aggravée et les journalistes lui demandent de ne pas venir dans, je cite, l'intérêt de tous. La direction de son côté plaide la présomption d'innocence. Le ton est monté d'un cran aujourd'hui puisque la chaîne ouvre la clause de conscience, un droit défini par le Code du travail pour les journalistes qui ne sont pas d'accord avec leur direction. Raphaël Garrigos est journaliste au site internet lesjours.fr. Il vient de sortir un livre sur la stratégie de Vincent Bolloré, actionnaire de Canal+ et d'iTélé. Et pour lui, cette clause de conscience cache des manœuvres opaques.
Il l'a dit lui-même lors d'un comité d'entreprise à Canal+, que la violence fait bouger les gens. Et là, avec dans le cas d'iTélé, c'est encore la même chose. Il a une chaîne dont l'audience baisse. Et il imagine qu'en mettant Jean-Marc Morandini, il va faire remonter l'audience de la chaîne. Mais là, ce qui risque, effectivement, c'est c'est que, au maximum, alors ça n'arrivera certainement pas, mais que les 142 journalistes qui ont signé la motion de défiance contre l'arrivée de Jean-Marc Morandini profitent finalement de cette clause de conscience pour partir d'ITL. Et il y a 150 journalistes à ITL. C'est-à-dire que la direction de Canal+ admet qu'avec l'arrivée de Jean-Marc Morandini, la ligne éditoriale d'ITL va changer. Nous, ce qu'on pense au jour.fr, c'est qu'il envisage un rapprochement avec Direct Matin, qui est son gratuit, un gratuit qui, au passage, est souvent destiné à promouvoir les activités du groupe Bolloré, de Vivendi, de Canal+, puisque c'est ce qu'on a révélé il n'y a pas longtemps. Vincent Bolloré va installer Direct Matin dans les locaux d'ITL, et ça va même plus loin, puisque Direct Matin a déposé la marque CNews Matin, et CNews, c'est le nom que va prendre bientôt ITL. Donc il est en train d'essayer de faire une convergence avec une chaîne d'un côté et un journal de l'autre. Ça peut arriver dans d'autres groupes, ça se passe par exemple avec Patrick Drahi, qui détient BFM, L'Express, Libération, mais là, il n'y a aucun lien capitalistique entre les deux. Il veut faire travailler ces deux rédactions ensemble, ce qui paraît baroque, au-delà même de penser qu'on peut travailler dans un journal de presse écrite et dans une télévision en même temps.
Des propos recueillis par Benoît Bouscarel. Raphaël Garrigos est l'auteur avec Isabelle Roberts du livre L'Empire, comment Bolloré a mangé Canal+ aux éditions Seuil. Lundi matin, une assemblée générale votera peut-être la grève. À Nice, l'hommage national aux victimes de l'attentat du 14 juillet est reporté à demain, conséquence des intempéries qui touchent toujours actuellement le département du Var. La cérémonie de demain, en présence du chef de l'État, aura lieu sur la colline du Château, près du Vieux-Nice. Trois mois après le drame qui a fait 86 morts, dont 15 enfants et adolescents, le nom des victimes sera notamment égrené devant une assemblée toujours traumatisée. Bonsoir Aurélie Kiefer.
Bonsoir.
Vous rentrez de Nice, les séquelles psychologiques sont encore bien présentes dans la ville, notamment chez les plus jeunes.
Oui, et il n'est pas nécessaire pour cela que les enfants aient été directement victimes ou témoins de l'attentat. Je vous propose d'écouter Alexandra Cerruti. Cette habitante de Cagnes-sur-Mer a emmené ses filles de 6 et 11 ans voir le feu d'artifice. Et alors qu'elles repartaient, des cours de feu ont éclaté. Elles se sont retrouvées prises dans une bousculade.
Elle, j'ai lavé au bras, on est tombé, tout le monde nous a marché dessus parce que c'était vraiment chacun pour sa peau. Quoi. Malheureusement, enfant, pas enfant, bref, personne calculait personne. La grande, elle s'est fait piétiner, du coup, ça continue à tirer pendant un bon moment quand même. Et du coup, on savait pas ce qui se passait, parce qu'on savait pas s'il y en avait un, dix, si on n'était pas du tout au courant de la situation à ce moment-là. Et on est parti en courant. On a été voir le psy, parce que la petite, quand je l'ai amenée à la montagne, elle a pris une fourchette en plastique pour se défendre. Elle m'a dit, je prends une fourchette au cas où s'il y a des terroristes. Bref, elle faisait avec ses moyens, quoi. Et là, dernièrement, même après tout ça, à l'école, elle a fait un plan d'évasion de l'école pour, si jamais il y a problème, parce qu'ils en parlent à l'école, vous savez, pour les, en cas d'attaque terroriste, tout ça, ils ont une marche à suivre, et donc elle a fait son petit plan d'évasion. Si jamais il y a problème, elle peut s'échapper. Voilà, donc en fait, elle y pense tout le temps, même dans des dessins ou quoi, ça la quitte pas trop, quoi. Et pour la grande, c'est pareil, parce qu'au cinéma, tout ça, elle veut plus en entendre parler. Dès qu'il y a un rassemblement de personnes ou quoi, c'est terminé. Elle veut plus sortir.
Du coup, vous êtes allé consulter, vous êtes allé voir un psychologue de ville, en fait, au début.
Oui, on a été toutes les trois, les enfants et moi, mais ça n'a pas été super. Elles ne veulent pas parler, en fait, devant le psy. Le psy lui a dit que ça n'arrivera plus jamais, mais elle me dit qu'est-ce qu'il en sait, de toute façon.
D'où l'intérêt d'aller voir des professionnels spécialisés dans le suivi des enfants et adolescents, comme l'hôpital pédiatrique de Lanval. Il a accueilli 1 000 000 de personnes en 3 mois et continue de recevoir de nouvelles demandes, comme l'explique la pédopsychiatre Graziella Leali.
Ce qu'on a vu beaucoup, c'est la mise un petit peu en stand-by de la souffrance, du trauma. Voilà, il y a beaucoup de familles qui sont immigrées de l'Afrique du Nord et qui ont l'habitude de retourner pour les vacances dans leur pays et qui sont partis après le 14 juillet et que les moments où ils reviennent, eh ben, le trauma, il vient. Tout revient de toute sa force. Donc il y a une demande qui vient petit à petit, c'est une demande autre. Puisque pas tout le monde est en état de s'autoriser de demander de l'aide, surtout quand il s'agit d'un trauma qui touche au psychisme. Voilà, c'est difficile et du coup, il faut un temps. Et il faut aussi, moi je dirais, une société qui permet que les gens puissent se reconnaître victimes, se reconnaître avoir été touchés, voilà, et du coup, demander de l'aide. Ce n'est pas simple tout ça.
Les symptômes constatés chez les enfants sont très variés, angoisse de séparation, troubles du sommeil, perte d'appétit, dépression et chez les plus petits, jeux pathologiques. Alors est-ce qu'il y aura des séquelles durables? C'est difficile à prédire, mais on peut le redouter compte tenu de l'extrême violence de l'acte qui a frappé Nice, un acte qui a traumatisé autant les parents que leurs enfants.
Merci Aurélie Kiefer et l'on peut retrouver votre dossier avec des informations supplémentaires sur le site internet franceculture.fr. À Alep, les secouristes travaillent sans relâche dans les quartiers rebelles. De nouveaux bombardements du régime et de son allié russe ont frappé la ville la nuit dernière et ce matin. L'Observatoire syrien des droits de l'homme n'a pas encore annoncé le bilan humain. Il y a peu d'espoir que la réunion sur la Syrie organisée demain à Lausanne en Suisse ne change la donne. Tout à l'heure, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a déclaré que Moscou n'avait pas l'intention de faire de nouvelles propositions. Concernant le Yémen, après le bombardement de dimanche dernier dans la capitale Sanaa, qui a fait 140 morts, le Royaume-Uni veut proposer un cessez-le-feu au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ce qu'annonce cet après-midi l'ambassadeur britannique auprès des Nations Unies. En Égypte, 12 soldats ont été tués ce midi dans le nord du Sinaï où l'armée lutte actuellement contre une branche locale du groupe djihadiste État islamique. L'attaque s'est déroulée à un poste de contrôle. Les soldats ont été pris pour cible par des tirs de mortier et des roquettes. 15 terroristes ont par ailleurs été tués, précise le porte-parole de l'armée égyptienne. Ce type d'attentat est fréquent depuis la destitution du président Morsi en 2013, mais cette zone du nord du Sinaï avait été jusqu'ici relativement épargnée. L'enquête du service investigation de Radio France cette semaine concerne la nouvelle hausse des péages. Elle a été annoncée le mois dernier par le ministre des Transports, Alain Vidalis, pour financer les grands chantiers autoroutiers. Bonsoir Maxime Fayolle.
Bonsoir.
Vous avez cherché à comprendre pourquoi les arbitrages se font toujours en défaveur des automobilistes.
Oui, c'est une question qu'on se pose tous à la barrière de péage. Un chiffre déjà, il faut savoir qu'en 10 ans, les prix ont augmenté de près de 20%. Pourtant, ces sociétés, elles vont très bien. Un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros par an, des dividendes qui explosent. Bref, une vraie poule aux œufs d'or que l'État a cédée à Vinci, Eiffage et Abertis il y a 10 ans, explique Laurent Equet. Il est à la tête du groupe de réflexion Automobilité et Avenir.
C'est forcément rentable, c'est 1,5 milliard de rente autoroutière, autrement dit de bénéfices par an. Chaque année, la rente autoroutière est quand même très très importante et ne va cesser de croître parce qu'on va de toute façon augmenter encore le trafic et les péages. Tout cela contribue donc à une augmentation des bénéfices et ces bénéfices vont directement dans les poches des sociétés privées.
Activité d'autant plus rentable que depuis 10 ans, ces sociétés font tout pour maximiser la rentabilité.
Et oui, outre les péages, elles vont également supprimer près de 30% des emplois en automatisant les barrières de péage. Mais elles vont aussi faire appel directement à leurs filiales pour réaliser les chantiers autoroutiers et parfois même se répartir certains marchés entre elles. C'est ce qu'a relevé l'autorité de la concurrence dans un avis qu'a épluché Raymond Avrier, un ancien élu écologiste de Grenoble.
Elles travaillent sur tous les gros travaux avec leurs filiales. Parfois de manière croisée, c'est-à-dire quand ce sont des sociétés autoroutières concédées à Vinci, les marchés sont passés avec des filiales de Vinci, voire avec des filiales d'Eiffage. Et quand on est avec une société autoroutière Eiffage, les marchés sont passés d'une part avec des filiales d'Eiffage et d'autre part avec des filiales de Vinci.
Et le pire, Maxime, c'est que tout ça se fait dans une grande opacité.
Et oui, en avril 2015, les sociétés et l'État concluent un accord, 3 milliards d'investissements contre la prolongation de la durée des concessions de 2 à 4 ans. Seulement, le contenu de cet accord reste secret et ça étonne Raymond Avrier.
Je m'aperçois au bout de quelques jours que personne n'a demandé l'accord. Donc, avec les collègues, on décide que je vais porter le dossier. Et comme M. Macron refuse de me communiquer ces documents, je suis obligé de saisir le tribunal administratif de Paris en annulation du refus du ministre de l'économie de me communiquer les documents qu'il détient et qui sont des documents publics.
Alors la justice a finalement donné raison à Raymond Avrier, mais le ministère de l'économie s'est pourvu en cassation. Le mystère reste donc entier.
Comment se justifient les sociétés d'autoroutes?
Très simplement, Jean Mesqui, le président de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes, explique qu'il est normal de faire des profits.
Les sociétés sont des sociétés privées. Comme toute entreprise privée, leur objectif, c'est de gagner de l'argent, parce que si on ne gagne pas d'argent, on meurt. Toute entreprise privée, encore une fois, s'organise de telle manière qu'elle essaye de faire valoir ses intérêts auprès de ses interlocuteurs. C'est dans les gènes d'une entreprise. Donc je pense que nous sommes efficaces, comme d'autres entreprises, pour le faire.
Et cette situation va durer car d'ici 2050, près de 18 milliards d'euros de travaux sont à prévoir et compensés à chaque fois, soit par un allongement des concessions, soit par de nouvelles hausses de péages.
Merci Maxime Fayolle. Les super profits des sociétés autoroutières, votre enquête est à lire sur notre site internet franceculture.fr et à retrouver dans son intégralité demain à 13h20 sur France Inter dans l'émission Secret d'Info. Un mot du marché automobile européen, justement, il se porte bien avec une progression de toutes les marques en moyenne de 7,3%. Au mois de septembre. L'Italie et l'Espagne affichent les meilleurs taux de croissance. En France, c'est Renault qui augmente le plus ses ventes, en hausse de près de 19% le mois dernier. La météo de votre samedi, le Var, restera en alerte orange jusqu'à 6h du matin, puis ça sera le retour du soleil autour de la Méditerranée. Alternance de nuages et d'éclaircies partout ailleurs, sauf sur la pointe bretonne où des averses orageuses sont attendues. Il fera dans la matinée 11 à Dijon, 12 à Paris, 13 à Bordeaux, 14 à Strasbourg, 19 à Marseille et 20 à Ajaccio.